d'eau et de lumière ce matin. Et voilà, merci. Merci. Et on a chanté comme un phare dans la nuit, comme un phare. Et je vous propose ce matin qu'on parle de l'Égypte. Rien à voir avec une chanson, bref, voilà. Avant de commencer, j'aimerais prier. Père Céleste, merci pour ce que tu as encore dit à nos cœurs ce matin. Merci parce que tu prends soin de nous. Merci aussi pour ta parole qui est précieuse, dans laquelle on peut puiser des trésors. Seigneur, merci d'ouvrir nos cœurs ce matin à ce que tu as à nous dire. Merci de nous rendre perméables à ta parole. Merci aussi de qu'on puisse laisser de côté tout ce qui nous tracasse, tout ce qui nous met en souci, et qu'on puisse se concentrer, Seigneur, sur ta voix, ta parole. Amen. Alors ce matin, je vous propose qu'on parle d'un texte qui est très connu, des 10 plaies d'Égypte. Alors pour ça, on va pas tout lire parce que c'est un passage qui va de Exode 7 à peu près à Exode 12, même un petit peu plus loin si on va jusqu'à la traversée de la mer Rouge. Et on a que 3 heures devant nous, donc on va pas pouvoir tout faire. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire l'introduction et on va lire Exode 7. Voilà, Exode 7, versets 1 à 7, qui est l'appel de Dieu envers Moïse pour cette mission qui est de délivrer le peuple. Exode 7, versets 1 à 7. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte, et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel, lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte, et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. » Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné. Ils firent ainsi. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. Alors les 10 plaies d'Égypte. Comme je l'ai dit, c'est un passage connu de l'Ancien Testament. Il y a même un film qui vient de sortir, alors qui est vraiment pas très fidèle au texte biblique. Hein. Je vous le dis tout de suite, si vous recherchez des vérités bibliques dedans, vous allez être très très déçus. Dieu va frapper par une succession de 10 plaies, entre Exode 7 et Exode 12, les Égyptiens, afin de délivrer les Hébreux de l'esclavage. Et la liste est impressionnante. On a le Nil changé en sang, invasion de grenouilles, attaque de moustiques ou de poux, selon les versions, essaim de mouches piquantes, peste du bétail, furoncle qui se transforme en ulcère, grêle, sauterelle, obscurité et mort des premiers-nés. Rectifié. Pour comprendre l'objectif de Dieu, je vous propose une petite histoire que vous connaissez déjà peut-être. Un riche fermier américain athée de la fin du siècle passé avait construit un hangar colossal fait de poutrelles de fer pour y serrer ses récoltes. Un hangar, affirmait-il, que Dieu même ne pourrait pas détruire. Pendant des années, ce hangar s'est dressé comme un défi à Dieu, jusqu'au jour où un cyclone est passé par là. Le premier bâtiment de la région à s'effondrer fut son hangar. Le lendemain, devant les tôles et les poutres d'acier tordu, un ami chrétien s'est approché de lui et lui a simplement dit ceci, « Ça, c'est le doigt de Dieu. » Il n'a pas répondu, mais son incrédulité l'a quitté. Le but de Dieu pour tous les hommes, et même à tous ceux qui s'opposent à ses plans, comme le Pharaon et également les Égyptiens dans cette histoire, est de se révéler tel qu'il est et de donner l'occasion à ceux qui s'opposent à lui de changer. Alors cela peut être doux, soft, pédagogique ou parfois assez catégorique quand l'opposition est réelle. Dieu aurait pu exterminer les Égyptiens en ouvrant la terre, comme il l'a fait à d'autres endroits, ou en envoyant la peste. Fini, plus d'Égyptiens, les Hébreux, vous pouvez y aller. Mais ce qui est fabuleux dans ce texte, c'est qu'on se rend compte de la patience de Dieu envers Pharaon. Il lui laisse le temps et les occasions, 10, de changer. Exode 9, versets 14 à 16. « En effet, cette fois-ci, je suis décidé à infliger toutes sortes de fléaux à toi, à ton entourage et à ton peuple, afin que tu saches que personne sur terre n'est comparable à moi. Si j'avais tendu le bras pour vous frapper de la peste, toi et ton peuple, vous auriez disparu de la surface de la terre. Mais je t'ai laissé subsister afin de te montrer ma puissance et pour que ma renommée se répande sur toute la terre. » Exode 9, versets 14 à 16. Alors ce texte des plaies d'Égypte pose une question difficile sur l'endurcissement du cœur de Pharaon, puisqu'il est dit que Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Je ne sais pas si ça vous pose problème, ça. Mais c'est un petit peu dérangeant. Mais si on regarde bien le texte, les 6 premières fois, c'est Pharaon qui endurcit son cœur. Il est dit qu'il était endurci, qu'il a endurci son cœur, qu'il était obstiné, qu'il n'a pas tenu compte les 6 premières fois. Et c'est seulement lors des 4 dernières que Dieu le fait. Peut-être qu'une fois que Dieu, dans son omniscience, voit qu'un point de non-retour est atteint. Mais les 6 premières fois, c'est Pharaon qui endurcit son cœur. Le but initial de Dieu n'est donc pas de détruire, mais de se faire connaître dans toute sa personne. Le but initial de Dieu n'est pas de détruire, mais de se faire connaître dans toute sa personne. Amour, patience, mais aussi sainteté et justice. Il y a donc un enseignement à tirer des 10 plaies, mais également de chacune des plaies, qui ont un sens bien précis et qui vont remettre en question les fondements et les priorités de l'Égypte antique. Ainsi, je vous propose ce matin de nous arrêter sur 2 des 10 plaies qui se sont passées. Nous verrons ensemble le Nil et l'obscurité. Et l'intérêt, c'est de voir en quoi cela peut influer nos priorités d'aujourd'hui. Le titre du message que je vous propose, c'est « Quelles sont mes vraies priorités ?» Alors le Nil, on voit ça à Exode 7, versets 14 à 25. Je lirai qu'un verset, Exode 7, verset 20. Moïse et Aaron firent ce que le Seigneur leur avait ordonné. En présence du Pharaon et de son entourage, Aaron leva son bâton et frappa l'eau du Nil. Et toute cette eau fut transformée en sang. Alors on va voir 5 aspects concernant le Nil. Le premier, c'est l'importance du Nil pour les Égyptiens. Il est dit que, un peu plus haut, que Pharaon va près de l'eau tous les matins, vraisemblablement pour adorer le dieu Nil, de son petit nom, Hopi. Rien à voir avec Adopi d'ailleurs. Hein. Le Nil est la raison de la puissance de l'Égypte. C'est la source de bénédiction et de fertilité. Je ne sais pas si vous voyez sur les photos là, c'est l'Égypte, c'est la photo de gauche, et on voit une bande verte et après un triangle vert. C'est le cours du Nil. Autour, c'est le désert. Il n'y a rien. Et on le voit ici, juste aux abords du Nil, c'est vert, et au-delà, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. L'Égypte, sans le Nil, n'est rien. Et c'est une source de fertilité. Les crues annuelles du Nil viennent fertiliser les sols, et ça revient tous les ans, tous les ans. Le Nil est aussi la source d'eau potable au milieu du désert. Et le Nil, qui est une source de vie et de fertilité, va devenir pollution et mort. Alors le deuxième aspect, c'est que on voit que se dégage une priorité de vie pour Pharaon avec le Nil. Pharaon descend au bord du Nil, donc tous les jours. Il y a des choses que vous faites tous les jours. Les choses qu'on fait tous les jours sont des priorités, me semble-t-il. Allez, on va dire qu'il va adorer Hopi, pendant 1 à 2 heures par jour. D'accord ? Ça fait 10% de son temps. 10% de sa vie est utilisée pour adorer le dieu Nil. Le Nil est d'une importance cruciale pour lui. Pour trouver les vraies priorités de ma vie, il suffit de regarder mon emploi du temps, n'est-ce pas ? À quoi je passe le plus de temps ? Une étude dont je n'ai pas vérifié les sources dit qu'on passe 23 ans à dormir. C'est bien de dormir, hein ? Il faut dormir. Peut-être moins un peu plus, ouais. Un peu moins avec Elliot, mais bref. 9 ans à regarder la télévision. On peut mettre Internet aussi. Alors, il semblerait que selon cette étude non vérifiée, voilà, qu'une femme passe 730 jours de sa vie à se laver, soit 2 ans. Alors qu'un homme, 180 jours, c'est-à-dire à peine 6 mois. Voilà, bref. Donc voilà, et on peut passer... On passe 2 ans à rire, voilà, 2 ans à cuisiner, peut-être un peu moins avec les Thermomix maintenant, 1 an et 2 mois à faire ses courses, un petit peu moins avec le Leclerc Drive, et voilà, etc., etc. 10 mois à remplir des formulaires administratifs, peut-être plus en France, voilà. Est-ce que ta priorité, c'est de connaître Dieu et de le faire connaître ? Est-ce que ta priorité, c'est de connaître Dieu et de le faire connaître ? Un prédicateur canadien a dit qu'il existe 2 livres pour nous faire avancer dans notre vie chrétienne. Un livre céleste, la Bible, et un livre terrestre, l'agenda, qui reflète nos priorités réelles. Que nous puissions être renouvelés dans la gestion de notre temps. Le troisième aspect que j'aimerais aborder avec vous, c'est le fait que le Nil est changé en sang. Il existe certaines explications scientifiques sur le fait que des bouts rouges pourraient venir à divers moments d'Égypte, de l'année en Égypte, soit d'Éthiopie, soit du Soudan, qui sont des phénomènes naturels. Est-ce que vous voyez la couleur rouge là ? Pas trop ? À peine. Donc c'est légèrement coloré, qui sont des phénomènes naturels connus par les Égyptiens et qui donc entraînent une coloration parfois rouge du Nil. Néanmoins, ces phénomènes sont connus et sont des sources de fertilisation des terres et du Nil. Ici, on s'aperçoit que ce phénomène vient déséquilibrer le cours naturel des choses, puisque l'eau devient impropre à la consommation, et les poissons meurent. Les poissons sont la principale source d'alimentation des Égyptiens de l'époque. Quand il y a des poissons qui meurent dans l'eau, c'est pas très bon signe quand même. Voilà. Et les Égyptiens se retrouvent obligés de creuser des puits par leur propre force. Ils ne sont plus bénis par le Nil. Un quatrième aspect. Le texte dit que les magiciens, si vous vous rappelez du texte, que les magiciens en font autant. C'est-à-dire qu'ils arrivent à transformer l'eau en sang également. Les puissances occultes sont une réalité même en Occident. On est bien d'accord. Le diable peut réaliser des guérisons. J'ai été très surpris il y a quelques semaines où on était à table en famille, avec le reste de la famille non chrétien, et autour de la table, on était, je ne sais pas, 6 ou 7, et je pense que les 6 ou 7 personnes autour de la table, excepté Aurore et moi, avaient fait appel à des barreurs de feu. Vous connaissez les barreurs de feu ? Les barreurs de feu sont des gens qu'on va voir pour soigner les brûlures. Et ça fonctionne. Le diable peut réaliser des guérisons. Il peut utiliser des choses qui brillent pour nous attirer. Son pouvoir est réel, mais limité. D'ailleurs, une de ses armes préférées reste le mensonge. Jésus dit en Jean 8, verset 44, qu'il est le père du mensonge. Le diable, certaines fois, peut nous suggérer des pensées du type « tu peux bien, excusez l'expression, mais tu peux bien baser ou creuser ta vie sur un bon métier, sur un peu d'argent, sur une belle famille, sur une belle maison, c'est dans ton droit. Pourquoi tu ne le fais pas ?» Alors, parenthèse, Dieu approuve toutes ces choses, hein. Tant qu'elles ne deviennent pas prioritaires sur lui. Soyons aussi vigilants dans les actions possibles de l'ennemi que confiants dans la puissance supérieure de Dieu. Dernier aspect que j'aimerais souligner sur le Nil, on voit un trait de caractère de Pharaon qui se révèle et de Dieu. Pharaon, voulant être considéré comme un dieu en Égypte, s'endurcit et ne s'intéresse pas à la détresse de son peuple, qui ne peut plus boire ni se nourrir. À la différence du Dieu des Hébreux, qui entend, qui compatit à leurs souffrances, tout en s'engageant personnellement pour délivrer les Hébreux de l'esclavage. Le Dieu des Hébreux, qui vient de se révéler juste avant en Exode 6 comme Yahvé. Yahvé, c'est celui qui est. Celui qui est éternellement présent, qui est à l'origine et au terme de toute existence. Yahvé, c'est le Dieu qui tient ses promesses. Celui qui est fidèle dans le temps. Yahvé est le terme le plus utilisé dans l'Ancien Testament pour qualifier Dieu. Il est utilisé 6499 fois, c'est pas moi qui ai compté. Et c'est le même Dieu que tu es venu adorer ce matin. Et c'est le même Dieu qui t'accompagne avec fidélité dans ton quotidien. Alors, des leçons pour nous. Les Égyptiens et Pharaon sont encouragés à reconnaître que le Nil est une grâce du Dieu Tout-Puissant et non un dû envers eux, ou bien une bénédiction de leur Dieu Hopi. Ainsi, il est important, et on l'a chanté ce matin en introduction à ce culte, de réaliser que les bénédictions, travail, nourriture, maison, etc., etc., de nos vies, viennent de Dieu, et pas de nous-mêmes ou de quoi que ce soit d'autre. Deuxième leçon, où est-ce que je m'abreuve ? Où est-ce que je vais chercher mon eau ? En tant que chrétiens, et ça nous a été rappelé tout à l'heure, nous avons accès à la source vivifiante et intarissable qu'est l'Évangile. C'est une source de réconfort et de rafraîchissement pour nos âmes. Alors après s'être attaqué à ce qui faisait la particularité de l'Égypte et à son écosystème particulièrement favorable, Dieu va s'attaquer systématiquement au travers des 10 plaies à tout ce qui fait l'Égypte. Leurs repères, leurs possessions, leur santé, leur religion, leur confort, tout va y passer pour leur montrer que c'est Dieu qui est aux commandes. Et là, maintenant, on va s'arrêter un petit peu plus sur l'obscurité. Exode 10, versets 22 et 23. Moïse leva son bras vers le ciel. Alors, une obscurité totale régna pendant 3 jours sur l'Égypte. Durant ces 3 jours, les Égyptiens furent incapables de se voir les uns les autres, si bien que personne ne bougea de chez soi. Par contre, il faisait clair dans la région où les Israélites habitaient. 4 aspects. L'obscurité est une attaque contre le dieu Ra, le dieu soleil, la lumière. La traduction de Ra en égyptien, c'est celui qui fait, alors que les Égyptiens n'ont rien pu faire pendant 3 jours. Alors là aussi, il y a une explication scientifique. Le vent et sable sont portés à un certain moment, qui viennent du désert, sont portés et ça arrive certaines fois que le soleil soit voilé en Égypte. Mais ce phénomène aussi était naturel, donc connu des Égyptiens, et il n'aurait pas causé la panique de la part des Égyptiens et obligé Pharaon à négocier. Si c'était quelque chose qu'ils avaient... S'il pleuvait comme d'habitude, bah, il pleut comme d'habitude, tu ne vas pas nous embêter avec ça. Les ténèbres, d'une manière générale, sont angoissantes pour les hommes et s'opposent à la lumière qui est rassurante. La question que va poser Dieu aux Égyptiens et que nous pouvons aussi nous poser est, comme ce cantique qu'on vient de chanter, « Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous, que ferions-nous et qui serions-nous » Qu'est-ce que la lumière de Dieu ? Alors, quelques souvenirs de notre programme du début d'année sur le fait que la parole de Dieu est comparée à la lumière. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles éclaire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Alors la lumière de la parole de Dieu a 2 fonctions principales. La première fonction, c'est une fonction de protection. La lumière dissipe les ténèbres de nos vies, illumine notre être entier et notre marche pas après pas. La lumière nous permet de nous éloigner des choses qui pourraient nous blesser ou nous faire trébucher. La deuxième fonction, c'est une fonction intellectuelle. La lumière met en avant la vérité et est opposée à l'erreur. C'est à travers la lumière de la parole de Dieu que nous pouvons déceler les erreurs ou les idées inspirées du diable. Une citation de Martin Luther King. L'obscurité ne chasse pas l'obscurité. Seule la lumière peut le faire. La lumière dissipe les ténèbres de nos vies. Alors, des invitations pour nous. Aucune lampe, vous serez d'accord avec moi, n'est utile si elle n'est pas allumée. Ça va avec tout le monde, ça ? Aucune lampe n'est utile si elle n'est pas allumée et n'est pas dirigée sur notre chemin ou sur les détails de nos propres vies. Il y a un autre aspect sur la lumière, c'est que nous sommes invités en tant que chrétiens à être une lumière pour les autres. Mais cela débute par vivre dans la lumière de la parole de Dieu nous-mêmes. En Éphésiens 5, Paul nous avertit que c'est toujours plus facile de marcher dans les ténèbres, même en tant qu'enfant de Dieu. Cela requiert une réponse active et un engagement pour nous exposer à la lumière de Dieu. Cela requiert une réponse active et un engagement pour nous exposer à la lumière de sa parole. Éphésiens 5, verset 8, « Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Alors le dernier aspect sur cet aspect des ténèbres, et là aussi, d'une manière générale, sur toutes les plaies, quasi toutes les plaies, on peut envisager une explication scientifique, et c'est en soi, c'est pas gênant, Dieu peut se servir de phénomènes naturels, et c'est ce qu'on croit aussi. Par contre, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que ces phénomènes peut-être naturels s'intensifient dans un temps très court. Et également, ils sont annoncés et arrêtés par ordre de Dieu. Et surtout, il y a une différenciation des Hébreux par rapport aux Égyptiens. Durant ces 3 jours, les Égyptiens furent incapables de se voir les uns les autres, si bien que personne ne bougea chez soi. Par contre, il faisait clair dans la région où les Israélites habitaient. Et la différenciation, revient à plusieurs reprises. Pour les mouches, en Exode 8, verset 18, pour la grêle, 9, verset 26, pour la lumière, donc on vient de lire, 10, verset 23, pour la mort, en 11, verset 20, verset 7. Dieu est aux commandes. C'est lui qui maîtrise nos circonstances et nos situations. Rien n'est trop grand, rien n'est trop petit pour lui. Nous pouvons retenir pour nous que Dieu prend soin de ses enfants, les protège, les éclaire et leur fait grâce jour après jour. Avant de conclure, j'aimerais faire 2 remarques sur Moïse. Alors, dans le film Pas du tout fidèle, on voit que c'est Moïse qui devient l'acteur principal, alors qu'on voit très bien que c'est Dieu qui est l'acteur principal. Par contre, on voit que Moïse a un rôle. Et c'est intéressant de regarder Moïse. La première chose qui est intéressante, c'est de remarquer que Moïse est choisi par rapport à Aaron. Aaron est plus vieux. Il a 3 ans de plus. C'est l'aîné qui doit diriger. En plus, Aaron a un don de parole. Alors que Moïse, pas du tout. Il ne sait pas parler. La logique de Dieu est opposée à la logique humaine. Dieu regarde au cœur et non à la logique humaine. Ne te dévalorise pas. Dieu a de belles choses en réserve pour toi. Deuxième remarque sur Moïse. Quand on regarde tous les 5 chapitres, là, on voit que, et même avant, on voit une évolution dans l'attitude de Moïse. Alors d'abord, il commence par refuser la mission que Dieu lui donne. Non, non, pas moi, on voit quelqu'un d'autre. Bon, vas-y, on voit Aaron. Puis, il y va, c'est un peu sur la pointe des pieds, et puis le peuple fait des reproches, et il est un petit peu craintif devant les reproches du peuple. Puis, il y va quand même, et puis il fait faire à Aaron en lui disant, vas-y, le Dieu a dit que tu levais ton bâton, lève ton bâton, et il va se passer ça. Et puis, il fait par lui-même. Et on voit ça à partir des ulcères, et on voit ça pour les ténèbres. Tac-tac. Voilà. Moïse leva son bras vers le ciel. Et là, c'est Moïse qui fait la chose. On voit que Moïse prend de l'assurance. Parce que Dieu l'a appelé. Et aussi peut-être parce qu'il constate qu'il est avec lui et que Dieu tient parole. Peut-être aussi parce qu'il a une relation d'intimité avec Dieu. Il se parle au quotidien. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on ne naît pas Moïse, on le devient. On ne naît pas Moïse, on le devient. En commençant par des petites choses. Moïse a gardé des troupeaux dans le désert pendant 40 ans. Après avoir été éduqué à la cour de Pharaon. Vous imaginez le choc là ? Moïse est marié à une fille de Madian. Il a fait des mauvais choix. Mais en acceptant de se mettre à l'école du Seigneur, qui est faite d'échecs et de victoires, qui est faite de repentance et de restauration, de doute et de confiance, ça c'est le service du Seigneur. Et ça commence par des petites choses qu'il te met à cœur de faire, de dire, de vivre. Intéressant la vie de Moïse. Alors pour conclure, ce texte de l'Exode d'il y a 2000 ans nous pousse à réfléchir à nos vraies priorités d'aujourd'hui. À quelle source d'eau je m'abreuve ? Est-ce que je me laisse éclairer par la lumière de la parole de Dieu ? Platon a dit « On peut aisément pardonner à l'enfant qui a peur de l'obscurité. La vraie tragédie de la vie, c'est lorsque les hommes ont peur de la lumière. » En Australie, j'ai vécu quelque temps, les gens sont excessivement sympas le jour. Vraiment. Mais ils sont excessivement agressifs la nuit. Comme si, il est interdit de faire de l'autostop en Australie la nuit. Comme si deux populations vivaient en fonction du soleil. Et que vivre à la lumière avait une influence sur le caractère des gens. Que notre grand Dieu nous éclaire par son Saint-Esprit pendant cette période d'été à le mettre en priorité. Ce Dieu compatissant qui nous a tellement mis en priorité qu'il a donné son Fils Jésus pour mourir à notre place afin que nous puissions vivre en nouveauté de vie. Et j'aimerais nous laisser cette promesse du psaume 27, le verset 1. Le Seigneur est ma lumière et mon sauveur. Je n'ai rien à craindre de personne. Le Seigneur est le protecteur de ma vie. Je n'ai rien à redouter. Le Seigneur est le protecteur de ma vie. Je n'ai rien à redouter. Amen.